J'aimerais parler sur le plan B de Sarai. Dans Genèse, chapitre 16, verset 1, il est écrit: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata-El-Roï, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï-Roï. Il est entre Kadès et Barède. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. On a peut-être acheté une maison et on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne et on a dû revendre à perte. On a peut-être acheté une voiture en croyant faire une bonne affaire et on s'est rendu compte qu'elle ne fonctionnait pas correctement et elle n'a pas été utile. On s'est peut-être marié avec la mauvaise personne et on se retrouve aujourd'hui divorcé. Ou on a suivi le conseil bien intentionné d'un collègue et finalement on s'est retrouvé licencié. Personne ne réussit tout le temps dans la vie. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Il y a des décisions que nous prenons, nous le faisons de notre mieux, mais un jour, finalement, nous le regretterons. Tout cela parce que nous n'avons pas pris le temps de la prière. J'aimerais voir avec vous l'exemple de Sarai, qui a cru bien faire en cherchant à mettre en place un plan B, en voyant que le plan de Dieu, le plan A, le plan initial, ne s'accomplissait pas. Mais on va voir comment ce plan qu'elle a fomenté, qu'elle a désiré mettre en place, finalement s'est retourné contre elle. Le premier point, c'est tout d'abord la stérilité de Sarai. Nous lisons au verset premier: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Les années ont passé et il ne s'est rien passé. Dieu nous apprend à persévérer malgré l'obscurité. Même si nous ne voyons rien de nos yeux, nous croyons que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons voir ou entendre ou comprendre. Abraham avait donc 75 ans lorsqu'il a reçu la promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Aujourd'hui, il en a 85 et il n'a toujours pas de descendance. Sarai en avait 65 au moment où Abraham a reçu son appel, aujourd'hui, elle en a 75. Et déjà, à 65 ans étant stérile, la promesse paraissait impossible. Maintenant qu'elle en a 75, elle voit bien que, en 10 ans, rien n'a avancé, elle ne voit rien s'accomplir, et il y a un phénomène décourageant quand vous attendez, quand vous priez, quand vous avez reçu une promesse, mais que vous ne voyez pas le plan de Dieu s'accomplir, eh bien, les mois, les années, et là, nous ne parlons pas simplement de mois, mais d'années qui s'empilent, 10 années, qui vont s'empiler les unes sur les autres, eh bien, cela crée un phénomène décourageant. Alors, c'est peut-être votre cas. Aujourd'hui, vous êtes découragé parce que les années passent et vous ne voyez pas la réalisation des promesses de Dieu. Vous pensez peut-être, ai-je mal compris, peut-être que Dieu voulait dire autre chose, et vous cherchez dans votre esprit, mais comment Dieu pourrait bien accomplir son plan? Plusieurs croyants ont été éprouvés par de longues périodes d'attendre sans rien voir. Il a fallu persévérer dans l'obscurité. Je pense à Moïse, qui a dû attendre 40 ans dans le désert avant d'être utilisé par Dieu pour retourner vers ses frères et les délivrer hors d'Égypte. Joseph, qui a reçu des songes, des révélations de Dieu concernant son frère, plutôt concernant ses frères, qui allaient se prosterner un jour devant lui. Et lorsqu'il en a parlé à sa famille, à son père, à ses frères, personne n'y a cru. Et les années ont passé, il s'est retrouvé en Égypte, il s'est retrouvé esclave, chez Potiphar, puis en prison, et les années se sont succédées, et au contraire, la vision semblait s'éloigner de plus en plus, et en tout cas, elle ne se réalisait pas comme il l'avait compris. Peut-être a-t-il douté, peut-être s'est-il dit, est-ce que ce songe, ces visions venaient bien de Dieu? Et effectivement, c'est 13 ans plus tard, alors qu'il va se retrouver devant Pharaon et qu'il va se retrouver à la tête de l'Égypte, que ses frères vont revenir vers lui et qu'ils vont se prosterner devant lui. Mais il y a eu 13 années entre le moment où il a reçu la vision et le moment de son accomplissement. Il fallait persévérer alors que tout lui indiquait le contraire. Je pense aussi à David. David qui a reçu très jeune l'onction pour être roi, le nouveau roi qui va remplacer Saül, mais pourtant Saül a continué à régner, et il s'est retrouvé avec cette onction, mais c'est seulement à l'âge d'un 30 ans qu'il est devenu roi de Juda dans un premier temps, et 37 ans qu'il est devenu roi d'Israël. Donc les années se sont succédées avec des détours, avec même des moments de désert, des moments où il a dû fuir loin du palais royal pour sauver sa vie, alors qu'il avait déjà reçu l'onction pour régner. Tous ces exemples nous montrent que nous sommes éprouvés par de longues périodes d'attente avant que la plénitude du plan de Dieu ne se réalise. Dieu utilise ces temps d'attente pour nous former. Ils ne sont pas inutiles. Plusieurs pensent que c'est du temps perdu, que Dieu pourrait accélérer les choses et faire en quelques mois ce que peut-être il faudrait des années pour arriver à la même chose. Eh bien, Dieu utilise le temps pour former notre caractère, pour nous former à la patience et aussi pour nous humilier. Ces temps d'attente nous rendent plus humbles et plus dépendants de Dieu, car nous comprenons bien que ce n'est pas par nos forces, notre force ou notre pouvoir que nous pouvons faire quoi que ce soit, mais c'est par la grâce de Dieu. En général, personne n'aime attendre. Certains aiment si peu attendre et qu'ils essayent toujours de passer devant les autres. Le voyons par exemple dans les longues files d'attente, les gens commencent à s'impatienter, à se plaindre, à gémir, et certains essayent sur les côtés de dépasser les autres pour gagner quelques places. Nous aimons bien que les choses avancent vite. Nous n'aimons ni les obstacles, ni les retards, ni les contretemps. Alors il nous faut admettre que Dieu va à son rythme et que nous ne pouvons pas accélérer le rythme de Dieu. C'est à nous de nous caler sur le timing de Dieu. Sinon, nous serons toujours frustrés parce que nous dirons « Ah, Dieu est encore en retard, il n'agit pas assez vite, mais c'est que nous n'avons pas compris. que c'est à nous de rentrer dans le processus et d'accepter le temps de Dieu, quand bien même il nous semble tardé. Je reviens à l'exemple de Moïse. Il aurait bien voulu accélérer les choses lorsqu'il avait 40 ans et qu'il a tué de ses mains un Égyptien. Il espérait que son peuple comprendrait que Dieu l'avait choisi pour le délivrer de l'esclavage. Et pourtant, ce n'était pas le temps. Il avait forcé les choses. Il avait voulu se mettre en avant et montrer que c'est par son bras, par sa main, que le peuple allait être délivré. Dieu en avait décidé autrement. Il avait bien choisi Moïse pour être le libérateur, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et quand vous n'êtes pas dans le timing, eh bien ça ne colle pas. Et Moïse a dû fuir. Moïse n'a pas pu délivrer le peuple. Il a dû aller chez son beau-père, Jéthro, en Madian, et c'est là qu'il a passé ses 40 années. Et c'est seulement quand Dieu a décidé du bon timing que Moïse a repris son courage à deux mains et est retourné en Égypte. Mais à ce moment-là, eh bien, les choses se sont accélérées de sorte que il s'est retrouvé devant Pharaon en quelques jours seulement après cet appel de Dieu. Les choses, quand Dieu les prend en main, elles vont s'accélérer. Mais ce n'est pas possible avant. Il faut vraiment attendre le temps de Dieu. Le deuxième point, c'est le plan de Sarai. Sarai a une bonne idée pour accélérer les choses.
Alors, elle va former un second plan et elle a bien l'idée que les choses vont se mettre en place rapidement. Alors, il y a un bon moyen d'accomplir la promesse sans tarder. C'est la fin du verset 1, la servante égyptienne. La servante égyptienne nommée Agar. C'est étonnant d'ailleurs que Dieu n'avait pas pensé à cette solution. Et Sarah y a pensé. Sarah, elle a réfléchi, elle s'est dit, puisque par moi ce n'est pas possible, on va trouver une autre solution. Agar, ça va le faire. Et elle va prendre l'initiative d'accélérer les choses de Dieu. Alors il faut toujours se méfier quand vous voulez accélérer les choses. Passer par un autre chemin. Parce que Dieu n'a jamais parlé d'Agar. Dieu n'a jamais dit à Agar, il va falloir que... Plutôt, Dieu n'a jamais dit à Abraham, il va falloir que tu passes par la servante de ton épouse. Jamais. Donc c'est vraiment une initiative personnelle, une décision prise sans concertation avec Dieu, mais par impulsion, par décision, pour se dire, allez, on va forcer les choses pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Là, vous partez mal. Si vous êtes dans cette dynamique, vous êtes certain qu'il va y avoir des grosses, grosses difficultés. Elle ignore encore ce qui va se passer, mais ça va très mal tourner pour elle. Alors, qui est la servante Agar? Il faut revenir un petit peu en arrière. C'est dans les chapitres précédents, on voit qu'à un moment donné, il y a eu la famine qui est survenue dans le pays d'Égypte, et Abraham a chancelé au niveau de la foi. On l'appelle le père de la foi, mais vous voyez, en son histoire, sa foi a eu des hauts et des bas. À un moment donné, il a faibli dans la foi, et comme il y avait la famine, il n'a pas prié, il ne s'est pas attendu que Dieu pourvoie, mais il a dit, on va aller en Égypte. Et là, il a fait quelque chose par rapport à sa femme en disant, par crainte, qu'on ne me tue à cause de ma femme Sarah qui était très belle, alors tu vas dire, Sarah, que tu es ma sœur. Donc il fait mentir sa femme, en quelque sorte. Il l'a fait mentir, et en plus, le plan, il marche. C'est-à-dire que Pharaon, il trouve Sarah très belle, il l'invite à son harem et tout. Et puis, il couvre de cadeaux Abraham. Il lui donne des cadeaux. Alors, il lui donne des bœufs, des brebis, il lui donne des ânes, des chameaux, tout plein de cadeaux. Des serviteurs et des servantes. Et parmi ces servantes, Agar. Alors, Agar, on ne la connaît pas encore à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là que vient dans la vie d'Abraham cette servante égyptienne. Mais que fait Abraham? Il prend tous les cadeaux. Il prend tous les cadeaux qui viennent. Il ne se pose pas de questions. Il est en train de mentir. Il n'a pas demandé à Dieu sa volonté. Il est dans un pays où il ne fallait pas aller. Enfin, il prend tout. Et puis, la famille de Pharaon est frappée à cause de Sarai, parce que c'est vraiment la femme d'Abraham. Et il ne fallait pas qu'elle aille avec Pharaon. Le mensonge est découvert. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés d'Égypte. Et Abraham, il part avec tous les cadeaux. Et voilà. Il ne sait pas que dans ses cadeaux, il y aura une bombe à retardement qui va éclater maintenant dans le chapitre 16. Il ne le sait pas encore. Parce que quand on voit les bénédictions temporelles et qu'on dit merci Seigneur, même par Pharaon, Dieu pourvoit, Dieu donne, en réalité, il y avait des cadeaux empoisonnés. Et Abraham n'aurait pas dû céder à tout cela. Bon, voilà, il est parti avec. Quand on commence à désobéir, quand on commence à s'égarer, on fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix, voilà, ça va ressurgir un jour. Alors Sarai a cherché la meilleure solution et la plus rapide pour aboutir au plan de Dieu. Elle a bien réfléchi. Et on peut dire que ça part d'une bonne intention parce qu'elle a vraiment le désir que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc, ce n'est pas une mauvaise personne, elle croit vraiment en Dieu, elle veut bien faire. Et on se rend compte, ce n'est pas parce qu'on veut bien faire des choses qu'on fait toujours bien les choses. On veut bien faire, comme Sarai, mais des fois on fait mal. On fait mal parce qu'on ne fait pas selon le plan de Dieu. Mais ça, vous le voyez partout dans la parole. Je pense à Caïn. Caïn, il voulait apporter à Dieu une belle offrande. Il voulait honorer Dieu par son offrande, mais il a mal fait. Dieu n'a pas agréé son offrande. Il a agréé celle de son frère, qui lui a bien fait, l'agneau. Ou vous avez par exemple Uzza, qui était... Alors quand David a fait revenir l'arche, déjà il a mal fait, parce que l'intention était bonne, faire venir l'arche à Jérusalem, c'était une bonne intention, mais il l'a fait sur un chariot avec des bœufs. Ça c'était mal faire, parce que Dieu avait dit, vous porterez l'arche, par des lévites avec des barres. Donc il a mal fait. L'intention était bonne, l'action était mauvaise. Et quand Uzza a vu que l'arche tombait, il s'est jeté sur l'arche pour l'empêcher de tomber. Il a été foudroyé par Dieu. Uzza a mal fait aussi. L'intention était bonne, il voulait protéger l'arche, mais il n'avait pas à le faire parce qu'il ne fallait pas toucher l'arche. C'était quelque chose d'interdit aux sacrificateurs ou aux lévites. Et puis, dans le Nouveau Testament, vous avez Marthe et Marie. Marthe, elle veut bien faire, accueillir Jésus, elle a préparé le repas, elle fait tout, elle se donne à fond, elle est bien intentionnée, mais finalement Jésus élève Marie qui a bien fait, elle a choisi la bonne part. Marthe avait des bonnes intentions, mais finalement elle n'a pas fait comme il fallait puisque c'est Marie qui est honorée. Alors, vouloir bien faire, c'est dans notre cœur, on veut bien faire, mais souvent, si nous ne faisons pas comme Dieu veut, ben nous passons à côté du plan de Dieu. Alors elle a réfléchi, Sarai, elle s'est dit, mais comment on pourrait faire? Et à l'époque, il y avait une coutume qui existait dans le monde, qui consistait, si vous étiez stérile, vous pouviez passer par la servante pour avoir la descendance, mais qui vous était attribuée. Et donc elle a choisi cette voie, on pourrait dire les voies du monde, les voies des raisonnements de la société, non pas les promesses de Dieu. Et au verset 2, elle dit tout simplement... à Abraham, elle dit, voilà Abraham, c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Mais moi je me dis que si elle dit l'Éternel m'a rendu stérile, elle pourrait aussi se dire, l'Éternel peut me rendre aussi féconde, parce que Dieu peut tout faire. Vous voyez, elle est plutôt du côté négatif en disant, voilà, l'Éternel m'a rendu stérile, sous-entendu, ça restera comme ça. Bon. Elle suit le monde et sa pensée, Romains chapitre 12, verset 2, que dit l'apôtre Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Sarai et nous, nous ne devons pas nous laisser influencer par la pensée du monde. Oui, il y avait des coutumes, oui, ce n'était pas quelque chose de complètement imaginé, qui sortait de nulle part. C'était des pratiques qui se faisaient, donc on pourrait dire les autres le font, pourquoi pas nous? Mais dans son cas de figure, il fallait qu'elle reste ferme et fidèle dans la parole de Dieu. Et elle ne l'a pas fait. Alors comment faire pour ne pas se laisser influencer par le monde et sa pensée? Eh bien, nous devons nous entretenir l'esprit de la parole de Dieu. Plus notre esprit sera en communion avec Dieu et rempli des promesses de Dieu, de sa parole, moins le monde aura d'impact sur nos décisions, sur nos choix. Eh bien, Sarai a laissé la pensée du monde de l'époque rentrer dans son esprit. Et le plan de Sarai, il paraît tellement bien, tellement cohérent qu'Abraham, il est d'accord. Il est d'accord. Lui non plus ne prie pas. En plus, il sera bien le père. Il sera bien le père puisque c'était ça finalement. Je reviens un petit peu en arrière au chapitre 15 et au verset 4. C'était bien ça la promesse de Dieu finalement. Si vous lisez Genèse 15:4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, c'était à Abraham. Ce n'est pas par lui, c'est-à-dire Éliézer, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors oui, c'est bien des entrailles d'Abraham, donc ça colle. Même si ce n'est pas par Sarai, la promesse, elle peut s'accomplir quand même d'une autre manière. Donc, vous voyez, tout correspond. Pour Sarai, elle arrive à convaincre son mari. Ça, c'est le troisième point. Abraham est à son tour convaincu que le plan de Sarai, c'est le meilleur, de Sarai. Abraham ne prend pas le temps de prier Dieu. Il est convaincu par les arguments de sa femme. C'est vraiment une très bonne idée. Les éléments sont factuels. Tout colle. Ça doit être vraiment ça, le plan de Dieu. Vous voyez, ils sont... Quand on ne prend pas le temps de prier, on fait toujours des mauvais choix. Alors souvent, nous sommes trop pressés, nous voulons que les choses avancent, alors nous voulons forcer des portes, et c'est ce qui est en train de se produire. Mais je remarque que ni l'un ni l'autre, on les voit à ce moment-là chercher Dieu. Parce que d'autres fois, vous verrez Abraham construire un autel à l'Éternel et prier, chercher la face de Dieu, chercher sa pensée. Là, vous ne voyez pas. Donc lui-même est convaincu que c'est la voie. Il faut aller dans cette direction. Abraham est éprouvé dans sa foi. Il a déjà eu des failles, hein. On l'a dit en Égypte. Chapitre 15, le chapitre précédent, il disait à Dieu, ben, je m'en vais sans enfant, la promesse ne s'accomplira pas. Lui-même, il avait des doutes. Hein. Il disait, c'est par Éliézer, mon serviteur, que la promesse s'accomplira. Dieu lui avait dit, non, 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 tu vas avoir un enfant, persévère. Mais sa foi est à nouveau éprouvée, et petit à petit, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut passer tous les tests. Abraham avait réussi au chapitre 15, il avait maintenu la foi, mais au chapitre 16, ben, il baisse. Il se laisse gagner par la pensée du monde, lui aussi, faire comme le siècle présent. Sarai avait certainement raison. Le plan de Dieu ne s'accomplit pas, il faut le faire autrement. Je termine avec un quatrième point, c'est les conséquences tragiques du plan de Sarai. Il y a une succession de conséquences tragiques. Sarai d'abord est méprisée par sa propre servante, ça elle n'avait pas prévu. Parce qu'au début, les choses se passent bien. Agar devient enceinte. Donc on pourrait dire le plan marche, le plan s'accomplit, le plan de Sarai fonctionne. Sauf que Sarai n'avait pas prévu la suite. Et c'est quoi la suite? Eh bien, Agar commence à mépriser sa maîtresse Sarai. Agar est fière et Sarai se sent humiliée, rabaissée devant sa servante. Ça, elle n'avait pas prévu. Elle se sent trahie. Et maintenant, ce sont des sentiments de haine et de vengeance qu'il va y avoir dans le cœur de Sarai pour sa servante. La Bible dit qu'elle la maltraita, elle l'a battue, elle l'a frappée, elle l'a rejetée. Tout ça, ce n'était pas prévu dans le plan. Il y a beaucoup de conséquences quand on n'est plus dans la volonté de Dieu. Des conséquences qu'on n'a pas imaginées. Et donc, dans sa haine et son amertume, elle va se venger sur Agar en la chassant. Un jour ou l'autre, quand on a fait le plan B, qui n'est pas le plan de Dieu, un jour ou l'autre, on en aura les conséquences. Et on pourra se plaindre, parce que là, elle est allée se plaindre auprès d'Abraham, elle est allée dire, mais ça va très mal avec Agar, elle me méprise. Mais c'était aussi de sa faute, c'était elle qui avait mis ça en place. Donc elle a commencé à se plaindre, à gémir, on peut se lamenter, de dire, voilà tout ce qui m'arrive, tous les problèmes. Mais finalement, j'ai fait un autre plan que le plan de Dieu. Je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Et Agar, alors autre conséquence, Agar doit fuir. C'est-à-dire que cette famille maintenant est divisée. Il y a un conflit. Agar et le bébé sont en danger dans le désert. Ils peuvent mourir. il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire. Enfin, la dernière conséquence tragique, c'est que ce bébé qui va naître, Ismaël, sera une grande source de difficultés pour le peuple de Dieu. Puisque Ismaël, ça va être le père de tout le monde arabe, qui va être un constant ennemi du peuple d'Israël, de génération en génération, d'ailleurs jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour vous dire que le plan B de Sarai a eu des répercussions sur plusieurs générations. Parce que si on parle du conflit israélo-palestinien, c'est la continuité de ce conflit entre Isaac et Ismaël. Les deux peuples ne se supportent pas. C'était le plan B de Sarai. Les conséquences intergénérationnelles. On n'avait pas pensé, elle n'avait jamais pensé que ça tournerait comme ça. Sarai a cherché un plan B. Elle pensait que le plan A de Dieu ne fonctionnerait pas. Et finalement, elle n'a pas pris le temps de prier. Abraham non plus, il n'a pas prié, ils ont été convaincus tous les deux. Vous voyez, on peut être croyant, et même un homme de foi comme Abraham, une croyante comme Sarah, mais le couple ne priait pas, et ils ont fait des mauvais choix qui se sont retournés contre eux. Alors c'est très important de remettre tous nos projets entre les mains du Seigneur. Seigneur, conduis-nous, ouvre la bonne porte, et ferme les mauvaises portes, et Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Ne cherchons pas à faire nous-mêmes précipiter les choses. Et si ça tarde, si la promesse tarde, attendons-la dans la foi. Dieu nous éprouve dans la foi. Est-ce que nous allons croire dans ses promesses jusqu'au bout? Des fois, c'est insensé, parce que si on raisonne sur le plan humain, faire une promesse à un homme de 75 ans pour l'accomplir à l'âge de 100 ans, ça paraît démesuré. Mais Dieu éprouve notre foi dans le temps. Allons-nous chercher des solutions plus rapides? Eh bien, nos plans B auront des conséquences aussi sur notre vie, peut-être même sur des générations suivantes. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, eh bien, il y aura toujours des conséquences. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole.